Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'heure de retrouver, comme chaque mercredi à 16h, le magazine Lille 1 Info. Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1 et à ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la Semaine internationale de l'Université de Lille. Avec Mesdames Marie-Claire, chargée de mission, et Véronique Level, responsable du service Relations internationales de Lille 1, et Monsieur Philippe Cordonnier, chef du service Relations internationales de Lille 2. Donc, une semaine internationale qui a commencé ce lundi. Véronique Level, peut-être ?
Oui, la semaine internationale se déroule en fait du 21 au 24 octobre. Donc elle a commencé lundi dans les 9 établissements participants, donc les 9 établissements de l'Université de Lille. Et elle se clôture en fait demain à la mairie de Lille par une grande réception.
Alors cette semaine internationale, International Student Week, en quoi consiste-t-elle ?
Alors c'est une semaine internationale qui a pour objectif de montrer l'internationalisation des établissements. C'est aussi un projet de l'Université de Lille, donc on travaille avec les 9 établissements, donc 6 écoles, 3 universités. L'objectif c'est de développer l'international dans les établissements, la mobilité des étudiants, profiter de la présence de tous les étudiants internationaux dans les campus.
Philippe Cordonnier ?
Oui, le but de cette semaine, c'est focaliser effectivement l'attention du monde universitaire dans toute sa dimension, à la fois les étudiants étrangers, les étudiants lillois qui ont un projet de mobilité, les porteurs de projets autour de l'idée d'international et de mobilité. Donc ça se traduit par une semaine d'événements, j'allais dire académiques, de sensibilisation sur les possibilités de partir à l'étranger, sur les modes de financement, mais également festifs autour des étudiants étrangers qu'on accueille. Qui peut prendre une géométrie différente suivant les composantes et les établissements.
Parmi les activités, les étudiants peuvent participer à quel genre d'action ?
Alors, il y a les étudiants étrangers, par exemple, organisent des dîners ou des déjeuners des cuisines des différents pays du monde représentés dans les établissements. Il y a des conférences, il y a des jeux, il y a des démonstrations de danse. C'est un peu effectivement la vitrine de la pluriculturalité, j'allais dire, des composantes, des établissements qui reçoivent des étudiants étrangers.
Donc vous avez un programme commun. Est-ce qu'il y a des événements en commun entre Lille 1, Lille 2, Lille 3 et d'autres partenaires dont on n'a peut-être pas encore parlé, Marie-Claire ?
Oui, on va terminer cette semaine internationale par une réception de clôture à la mairie de Lille, donc demain jeudi 24 octobre à 18h. Et là, c'est une réception commune aux 9 établissements qui a été organisée avec la mairie de Lille. Donc on aura des étudiants qui vont témoigner, un étudiant brésilien, Raphaël, qui va témoigner de sa mobilité à Lille, et deux étudiants lillois qui sont partis respectivement à Rotterdam et au Sénégal, qui vont nous faire part de leur expérience et ce qu'ils en ont retiré.
Donc peut-être qu'on peut rappeler l'Université de Lille, en quoi ça consiste ? Est-ce que c'est une entité qui est formelle ou est-ce qu'elle est en devenir ?
C'est une entité qui est en devenir. Pour l'instant, c'est la coopération entre les 9 établissements. Donc, on peut peut-être rappeler les établissements partenaires. Il y a l'Université Lille 1, l'Université Lille 2, l'Université Lille 3 et 6 écoles. Donc, l'école centrale, l'ENSET, qui est l'école de textile à Roubaix, l'école de chimie de Lille, l'ESJ, Sciences Po et Télécom Lille. Donc, ils travaillent ensemble sur différents projets dans différentes thématiques, la recherche, la formation, les relations internationales, les conditions de vie et de travail et les fonctions support.
Donc, on l'a bien compris, cet événement, donc Semaine internationale de l'Université de Lille, a beaucoup à voir avec les relations internationales de ses composantes. Pour vous, ça représente un travail important, une préparation et aussi des perspectives que vous avez déjà un peu anticipées?
On pense qu'on va reproduire l'événement tous les ans, désormais. Là, c'était la première édition. On a eu peut-être pas assez de temps pour la préparer, mais c'est... Mais disons que l'année prochaine, l'événement sera certainement plus important. Ce qu'on veut, c'est mobiliser plus de composantes, mobiliser plus d'étudiants et peut-être développer plus la communication en amont. C'est vrai que cette année, on a manqué un petit peu de temps pour faire une communication large. Mais on retiendra toutes les leçons pour l'année prochaine. Mais on est quand même très content parce qu'on a quand même réussi à mobiliser pas mal d'étudiants et les composantes qui ont joué le jeu. On a eu par exemple à Lille 1 hier une journée Japon et ça a été vraiment très intéressant. Des étudiants japonais qui ont appris aux étudiants de Lille à faire des origamis ou à boire le thé à la japonaise. Ces choses-là, c'était vraiment très intéressant. Et je pense que si on arrivait à faire ça dans toutes les composantes de tous les établissements à l'Université de Lille, ce sera vraiment un événement très important.
Oui, pour rebondir sur les propos de Véronique, je pense que cet événement qui est commun aux 9 établissements sera reconduit l'année prochaine et avec plus d'anticipation, nous donnerons l'envergure qu'il mérite. Alors à Lille 2, effectivement, on a peut-être une expérience un peu plus importante puisque cette semaine était déjà opérationnelle depuis 3 ans et est inscrite effectivement parmi les projets phares sur le volet international, donc l'Université de Lille. Donc l'année prochaine, je pense qu'avec l'anticipation que nous aurons, nous aurons un événement vraiment digne de ce nom.
Alors vous l'avez souligné, les universités de la région ne sont pas coupées du monde, bien au contraire. Et l'internationalisation, c'est un enjeu essentiel de développement et de rayonnement. Comment vous orientez un petit peu vos politiques? Est-ce qu'il y a une politique commune pour l'Université de Lille où chacun a aussi ses propres dynamiques?
Alors, il y a des chantiers communs qui ont été définis dans le cadre de ce projet Université de Lille. L'État d'Ascension Student Week est l'un des premiers projets qu'on peut concrétiser, mais d'autres, effectivement, ont été inscrits au futur programme, qui sont la certification aux langues, la mise en place d'un label international commun aux neuf établissements. Et un guichet unique pour
accueillir les étudiants. Étudiants et les chercheurs étrangers.
Et les chercheurs. Le but, effectivement, de ce vol international, c'est également de renforcer notre visibilité, notre attractivité dans un contexte des universités qui est mondialisé, hein, effectivement, où les grands enjeux se disputent, j'allais dire, de manière sur le plan international. Donc, c'est renforcer à la fois notre offre de formation, nos centres d'excellence scientifique, de travailler pour attirer plus d'étudiants étrangers dans nos établissements, sur des opérations de double diplôme, en renforçant notre capacité à rendre notre formation plus attractive, notamment par le développement de cours en anglais et en travaillant bien sûr sur la mobilité entrant des étudiants, mais également la mobilité sortante de nos étudiants, envoyer plus d'étudiants à l'étranger. C'est un objectif européen, mais qu'on a bien intégré au sein des établissements.
Pourquoi des étudiants étrangers viennent à Lille plutôt qu'ailleurs? Et c'est vrai qu'il y a la tentation d'aller aux États-Unis, en Angleterre, au Canada ou dans d'autres pays. Pourquoi Lille?
L'île bénéficie effectivement d'atouts non négligeables qui ne sont pas forcément bien reconnus ou qu'on ne sait peut-être pas mettre vraiment en valeur. Nous y travaillons. Nous avons l'avantage effectivement d'avoir une situation géographique qui est très très attractive par rapport à l'étranger. C'est un point d'ancrage pour découvrir toute l'Europe. Nous avons une offre de formation qui est tout à fait remarquable, des centres d'excellence scientifique qui sont à mettre en avant. L'île a tous les avantages, je veux dire, d'être à côté de Paris. Donc la question qu'on nous pose souvent à l'étranger, est-ce que l'île c'est Paris? Ben écoutez, on leur répond non, c'est pas Paris, mais
c'est pas loin.
C'est la possibilité de découvrir la Belgique toute proche, la Grande-Bretagne toute proche, l'Europe du Nord. C'est une qualité de vie que vous ne trouverez pas forcément à Paris. Donc c'est une ville universitaire, c'est une vie étudiante qui est remarquable, une vie culturelle qui est incroyable et qu'on invite donc les étudiants étrangers à venir découvrir.
Moi, j'ajouterais qu'on n'a pas attendu le projet de l'Université de Lille pour travailler sur l'international et que ça fait quasiment une dizaine d'années que Lille 1, Lille 2 et Lille 3 travaillent ensemble sur des projets communs. Donc, je pense notamment à tous les projets Erasmus Mundus qu'on a gérés ensemble et qui concernent toutes les zones du monde. Donc, on a vraiment une visibilité à l'international qui a été travaillée pendant de nombreuses années. Ce qui explique pourquoi il y a autant d'étudiants internationaux sur Lille.
Donc pour ces étudiants qui ont envie de venir à Lille, des étudiants étrangers, on peut dire qu'il y a environ trois catégories d'étudiants. Il y a les étudiants européens, il y a les étudiants de l'espace Schengen et puis il y a les autres, non ?
Il y a les étudiants européens, c'est-à-dire ceux qui viennent dans le cadre du programme Erasmus. Donc ça, c'est vrai que c'est une structuration au niveau européen qui existe depuis presque 30 ans maintenant, donc il y a une habitude. Après les autres étudiants,
l'espace Schengen,
l'espace
ça favorise Schengen, les choses.
C'est les autres étudiants de l'Europe, mais finalement ça concerne relativement peu d'étudiants. Et les autres, c'est le monde entier finalement. Moi, je séparerais peut-être ceux qui viennent de l'espace francophone et ceux qui ne viennent pas de l'espace francophone. Et on a, en fait, après les statistiques, bon, il faudrait vérifier dans chaque établissement, mais à Lille, on a par exemple beaucoup d'étudiants qui viennent du Maroc, qui viennent de l'Algérie aussi. Donc c'est beaucoup d'étudiants qui viennent dans différents cadres et aussi qui viennent par leurs propres moyens. Parce qu'il y a aussi ces étudiants qui ne viennent pas forcément dans le cadre d'un échange.
C'est vrai que le cas un peu atypique, ce sont des étudiants qui sont dans l'espace Schengen, par exemple en Chine, mais qui ne peuvent pas aller en Angleterre sans un visa complémentaire.
Oui, ça, c'est un problème.
Donc c'est vrai qu'ils sont en Europe, mais pas toute l'Europe.
Oui, c'est sûr.
C'est compliqué.
Mais cela étant, le programme Erasmus a quand même permis de rendre accessible la mobilité Erasmus à tous les étudiants. Il n'y a plus de question de nationalité. Un Chinois qui veut partir en Espagne, dans le cadre du programme Erasmus, c'est possible maintenant depuis deux
nouveau,
ans.
Alors.
C'est quand même une bonne chose.
D'accord. Donc ces étudiants, qu'est-ce qui permet de bien les accueillir ? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers ? Je suppose que pour eux, leur première impression est importante pour aussi la communiquer à des personnes qui sont dans leur pays, hein.
Alors, je pense qu'après, chaque établissement a ses pratiques, mais on a tous à peu près la même philosophie, c'est mieux accueillir les étudiants. D'ailleurs, le guichet unique, hein, c'est un des projets d'Université de Lille pour qu'il n'y ait qu'un accueil, même que serait-ce qu'un portail informatique, mais qui permette aux étudiants d'avoir toutes les informations au niveau administratif, au niveau des procédures d'inscription, des problèmes de visa, etc. Alors, à Lille 1, moi, je peux parler de ce qui se passe à Lille 1. Donc, tous les étudiants qui sont accueillis dans le cadre des échanges, on les aide pour toutes les procédures administratives, inscription, pour le logement, et pour tout le suivi de leur scolarité. On verse aussi des bourses parfois à des étudiants si c'est inclus dans un programme. Et puis pour les autres, il y a des tutorats, il y a aussi le service d'accueil des étudiants internationaux qui les aide pour les titres de séjour. Donc je pense qu'il y a quand même un accueil qui est quand même très développé à Lille 1.
Philippe Cordonnier, à Lille 2, on enseigne le droit. Est-ce que ça donne des compétences particulières pour aider, favoriser ces programmes ? Vous connaissez bien les législations, alors ?
Oui, on a intégré effectivement les différences de législation. Pour enchaîner sur les propos de Véronique Level, bon, toutes les universités, tous les établissements ont mis en place un dispositif d'accueil l'accueil des étudiants étrangers qui essaient d'accueil et travailler, j'allais dire, en amont, avant que l'étudiant en arrive, bien sûr, hein, tout le travail préparatoire pour faciliter l'obtention de visa lorsqu'ils sont nécessaires, et bien sûr pour les accueillir, j'allais dire, physiquement à Lille, un accueil en gare, un soutien linguistique en français lorsqu'ils en ont besoin. Et on s'appuie également sur une structure qui est l'International Academy aussi, au niveau de tous les établissements du Nord-Pas-de-Calais, par la communauté des universités et des établissements du Nord-Pas-de-Calais, avec un système de tutorat et d'accompagnement d'étudiants étrangers pour qu'ils soient vraiment bien intégrés, qu'ils s'intègrent vraiment, vraiment, vraiment bien, et qu'ils aient les conditions optimales d'études à Lille. Voilà.
Marie-Claire, donc cette semaine est bien engagée. Quels sont les grands événements qui attendent ces étudiants étrangers ou non d'ailleurs ?
Oui, parce qu'il est important de spécifier que c'est pas que pour les étudiants étrangers, mais bien aussi les étudiants des 9 établissements qui souhaiteraient partir en mobilité, pour les inciter à partir dans différents pays, leur montrer un peu les différentes cultures et les différentes formations que proposent les établissements. Donc comme grand événement qui reste, il y a justement la cérémonie de clôture demain, dont on a déjà parlé, mais on n'a pas spécifié que les étudiants devaient s'inscrire sur le site www.univ-lille.fr pour assister à cette réception. Donc avant demain 18h, les inscriptions fermeront juste avant la réception.
Ça se passe où ?
Ça se passe à la mairie de Lille.
D'accord.
Salle Grand Carré.
Il y aura du monde.
Il y aura du monde, voilà.
Et des cadeaux.
Et des cadeaux.
Voilà. Pour les étudiants de moins de 26 ans, ils recevront un pass C-Art, qui est un pass fait par Lille Métropole et qui permet d'accéder à 5 musées en illimité pendant un an.
Bon, il n'y aura pas que le premier dimanche du mois, alors.
Non.
Bonne nouvelle. Voilà donc les événements. Par la suite, vous avez déjà en projet les prochaines éditions. Qu'est-ce qui peut changer par rapport à ce que là vous avez déjà vécu sur cette expérience ?
Alors, comme l'ont dit avant, Véronique et Philippe, on s'y prendra avec un petit peu plus d'anticipation sur l'organisation. Et le principe est surtout que chaque année, ça soit un établissement différent qui soit pilote de cet événement. Donc, cette année, c'était Lille 2, surtout pour bénéficier de son expérience. Comme l'a dit Philippe, ça fait 3 ans que cette semaine était organisée dans l'établissement de Lille 2. Et l'année prochaine, l'objectif est que ça soit Lille 1, Lille 3 ou une des 6 écoles qui prennent ce projet en charge.
Une petite conclusion alors pour vos universités respectives, Philippe Cordonnier.
Ben, la conclusion, c'est que bon, nous sommes totalement investis de cette mission de promouvoir l'international sous toutes ses formes et de effectivement réunir toutes les énergies pour faire aboutir nos projets, effectivement pour que plus d'étudiants partent à l'étranger, pour accueillir plus d'étudiants et pour avoir vraiment une internationalisation de plus en plus marquée dans nos établissements. Donc cette semaine internationale, c'est un outil qui vient renforcer notre action au quotidien au sein des services des relations internationales.
Véronique Levet.
Bon, je pense la même chose que Philippe, mais j'ajouterais qu'on sort aussi du monde universitaire et qu'on rencontre les collectivités territoriales et locales, comme la mairie de Lille, la communauté urbaine, et on travaille maintenant sur une politique de site qui semble un petit peu plus large que juste la communauté universitaire. Et je trouve que c'est aussi une bonne chose, parce que l'international, c'est aussi ce qu'on appelle l'internationalisation at home, c'est aussi chez nous qu'on doit la faire.
Voilà, donc on a bien parlé des enjeux pour vos universités. Il y a aussi un enjeu pour la langue française, non, si j'ai bien compris.
Vous pensez que
le français est
menacé ?
En danger, ouais. Beaucoup le disent. Hein.
Peut-être que c'est un effet de la loi sur l'enseignement supérieur et du débat qui a lieu cet été sur les cours en anglais qui seront possibles maintenant à l'université, mais... Je pense pas, parce qu'en fait, un étudiant international, quand il vient à Lille, il est obligé d'apprendre le français. Et en tous les cas, nous, on l'accompagne pour qu'il suive des cours de français langue étrangère, de FLE. On a mis d'ailleurs en place un DU de FLE depuis cette année. Et moi, je pense qu'un étudiant qui passe une année chez nous, qui parle pas français, forcément, il a envie de l'apprendre, parce que c'est nécessaire pour la vie quotidienne. Et c'est rare les étudiants qui viennent, qui parlent qu'anglais, qui repartent chez eux sans avoir essayé d'apprendre quelque chose de la France. Donc moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pour le rayonnement de la France, c'est vraiment quelque chose d'important.
Oui, et une action comme la Semaine internationale ou la mobilité internationale dans son cadre le plus général forme des étudiants qui sont après nos ambassadeurs après à l'étranger. Hein. Donc la langue n'est qu'un aspect, l'aspect culturel est beaucoup plus important et dépasse la simple pratique de la langue. Donc l'idée, c'est effectivement que les étudiants puissent repartir de Lille avec une image positive, à la fois sur le contenu des études qu'ils ont suivies, à la fois sur les conditions où ils ont, dont ils ont bénéficié pour favoriser leur accueil et la vie et toutes les joies qu'ils ont pu avoir ici à Lille. Donc c'est cette idée-là.
Je pense que le monde universitaire est tout à fait en phase avec vos pensées, vos propos. Est-ce que le monde politique vous rejoint sur l'idée que l'accueil des étrangers, c'est important, c'est l'image de la France qui est véhiculée et que ça peut aussi ouvrir des perspectives et préserver non seulement la langue, mais les échanges
Tout à fait. Enfin, il y a une prise de conscience nationale. Faut pas se leurrer. Effectivement, l'enseignement supérieur est un secteur concurrentiel. C'est-à-dire l'Europe est en concurrence avec les États-Unis, l'Australie, sur des domaines comme l'enseignement supérieur. Donc, il y a vraiment un enjeu. Une influence à maintenir au point de vue international sur la qualité de l'enseignement supérieur français et de savoir qu'en France, il y a des formations de pointe, il y a une recherche de pointe, il y a des formations adossées au secteur, aux grands axes de recherche et il y a des conditions optimales pour venir étudier et chercher en France. Donc, il y a un gros travail qui est fait au niveau national et au niveau régional, j'allais dire, et local, bien entendu. Notre action, elle s'exerce en phase avec les grandes politiques nationales en matière d'attractivité de notre enseignement supérieur, mais également sur des politiques locales. Donc, on va au niveau de la ville de Lille, nous sommes établissement de l'Université de Lille en mode projet, en phase avec des rapprochements, j'allais dire, entre les villes de Lille et les villes d'Oujda, par exemple au Maroc, sur Tlemcen, sur Wrocław, au niveau régional. Nous sommes tellement dans une politique de rattachement d'un volet enseignement supérieur par rapport aux coopérations interrégionales. Nous avons une grosse action sur le Brésil qui est basée sur les relations entre la région Nord-Pas-de-Calais et la région du Minas Gerais, qui prend appui à la fois sur nos points forts en matière d'enseignement, également nos points forts en matière de recherche. Je pense au secteur santé, je pense au secteur des territoires, de la géographie. Donc il y a toute une dynamique qui n'inclut pas uniquement les établissements d'enseignement supérieur, mais également les collectivités locales, comme l'avait déjà précisé Véronique. Et on l'espère plus tard, également les entreprises du Nord-Pas-de-Calais qui pourront également se joindre à nos projets.
On assiste actuellement à quelques développements de tendances xénophobes en France. Est-ce que vous auriez des mots pour convaincre ces gens sensibles à ces idées de trouver l'intérêt justement de développer les échanges internationaux, les contacts et accueillir tous les étrangers qui ont un intérêt à développer des compétences, des connaissances par rapport à l'environnement français?
Alors, ces personnes dont vous mentionnez la xénophobie voient l'étranger comme un ennemi potentiel, comme un concurrent. Bon, alors, il ne faut pas se leurrer. Nous venons former des Chinois, des Brésiliens, qui sont des pays à forte croissance. Mais ce sont nos futurs, j'allais dire, partenaires dans nos relations économiques. Hein, je veux dire. Donc, si former un Chinois qui, après, va ouvrir son activité commerciale en traitant avec la France, c'est une opportunité. Dans ce domaine des relations internationales, nous avons le cœur grand comme le monde, on va dire. On partage beaucoup de choses. Et bon, quand on parle de mobilité internationale, bon, j'ai parlé des aspects académiques et de recherche. J'ai oublié de dire effectivement le facteur culturel d'ouverture d'esprit qui paraît évident. Bon, alors c'est peut-être un lieu commun de reparler encore de ce film d'Auberge espagnole, mais qui demeure toujours d'actualité. Hein. Donc Erasmus, mais hors Erasmus. Il faut savoir que le futur programme européen, Erasmus+, va pas se limiter à l'Europe, mais va s'ouvrir sur le reste du monde et intégrer des universités de pays tiers, voire des entreprises de pays tiers. Donc cette ouverture sur le monde, ces yeux ouverts sur le monde, cet esprit ouvert sur le monde, il va falloir que tout le monde se fasse à cette idée. Par nécessité, j'allais dire, économique, mais également parce que je pense qu'on en a besoin de cette ouverture. pour son bien-être.
Et d'ailleurs, on constate que tous les étudiants qui partent en mobilité, quand ils reviennent, ils se disent transformés, ils ont changé, ils sont devenus plus mûrs, ils ont appris à travailler avec les autres, ils ont appris à s'adapter à plein de choses. Et parfois, ils se sentent même un peu mal à l'aise dans un contexte national parce qu'ils n'ont plus du tout les mêmes limites. Donc je pense qu'en renforçant la mobilité sortante, en envoyant nos étudiants à l'étranger pour deux semaines ou deux mois ou un an, c'est forcément un moyen de contrecarrer toutes ces idées négatives qu'on entend en ce moment dans le contexte de crise qu'on traverse.
Voilà, mieux connaître l'autre pour ne pas en avoir peur.
Tout à fait.
Merci pour tout. Donc, je vais rappeler, nous étions avec Véronique Level, responsable du service relations internationales Lille 1, Marie-Claire, chargée de mission aussi à Lille 1, Philippe Cordonnier, chef du service relations internationales à Lille 2. Bonne semaine, donc, semaine internationale de l'Université de Lille.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.